Si vous avez loupé les précédents épisodes de Destin de Légende, sachez qu'ils sont disponibles et que vous pouvez les écouter avant d'entamer celui-ci. Pour les autres, le dernier épisode de cette première saison commence maintenant.
These will be my final show.
Ce seront les derniers concerts de ma carrière et ça va se passer à Londres. Je vais chanter les chansons que mes fans veulent entendre.
This is it.
On y est. Et rendez-vous en juillet.
5 mars 2009. Le roi est de retour et il a une annonce de la plus grande importance à faire à ses fans. Dans quelques mois, il repartira pour une ultime tournée, un cadeau inespéré pour ceux qui l'ont toujours soutenu. Après s'être fait très rare pendant près de 4 ans, il crée encore une fois l'événement sur une seule prise de parole. Durant cette courte apparition, il tient à mettre les choses au clair. Ce sera sa dernière aventure. Un point, c'est tout. This is it, nous y voilà, enfin. Personne ne l'attendait et pourtant, il est de retour avec une série de concerts. Cette nouvelle fait le tour des médias et les billets de cette tournée se vendent en quelques heures seulement, devenant la vente de billets la plus rapide de l'histoire. Très vite, ce show suscite autant d'attentes que d'interrogations. Tout ce que l'on sait de This Is It, c'est qu'il sera pour les spectateurs une expérience de musique live exceptionnelle selon les producteurs. La série de concerts se prépare dans le plus grand des secrets. Les fans trépignent d'impatience à l'idée de retrouver Michael sur scène pour ce qui est déjà considéré comme l'événement musical de l'année 2009.
On débutera le spectacle dans la pénombre. L'ouverture sera spectaculaire avec des feux d'artifice. On verra des flammes, des étincelles, des explosions. On présentera notre vidéo d'introduction avec ces fameux flashbacks. Et c'est à ce moment-là que l'homme-lumière apparaît sur la passerelle, flottant au-dessus de la scène. Il scintillera grâce à ses images vidéo. Et les morceaux du robot se détacheront les uns après les autres pour laisser apparaître Michael et à son signal, la musique commencera.
Pour une surprise, c'est une surprise. Michael Jackson annonce qu'il remonte sur scène et ce, après une longue absence placée sous le signe de la discrétion et c'est peu de le dire. Isabelle, pouvez-vous nous raconter les coulisses de ce retour pour le moins inattendu ?
Après avoir disparu de la vie médiatique et en dépit de quelques interventions publiques depuis 2005, Michael Jackson annonce donc en 2008 qu'il va remonter sur scène pour une ultime tournée. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, le public et les médias sont à la fois surpris, impatients, fébriles. Et les spéculations vont bon train sur le retour de cet artiste que l'on attendait sur scène depuis plus de 10 ans maintenant. Alors au départ, seulement 10 concerts vont être signés et prévus à Londres pour l'été 2009. Mais en fait, à partir de la journée des préventes du 11 mars 2009, les billets étant partis tellement vite, c'est la vente la plus rapide de l'histoire, des dizaines de dates vont être rajoutées au compte-gouttes. Et en fait, le 12 mars, apparemment, les préventes terminées, c'est alors 45 dates qui sont prévues. Et on va encore en rajouter 5 derrière, ce qui va nous amener au 13 mars 2009 avec un total de 50 concerts qui devaient avoir lieu du mois de juillet au mois de septembre 2009, puis ensuite au début de l'année jusqu'au printemps 2010. Mais enfin, Michael Jackson, lui, n'avait signé que pour 10 concerts. Alors, les 40 autres dates auraient-elles eu vraiment lieu ? Auraient-elles pu être juridiquement annulées ? Ça, on ne le saura pas.
Finalement, le lancement de la nouvelle tournée de Michael Jackson est repoussé au 13 juillet. Dans l'idée, ce temps supplémentaire est censé permettre au roi de la pop de se préparer convenablement. Mais le stress et la pression est trop grande pour cet artiste âgé maintenant de 50 ans. Perfectionniste jusqu'au bout des ongles, il est impensable pour lui d'offrir un show au rabais à ses nombreux fans qui l'attendent depuis de nombreuses années. Ce désir de montrer un spectacle d'une qualité irréprochable vire même à l'obsession pour le chanteur. La preuve, en moins d'une minute.
Il faut attendre mon signal. Il faut attendre mon signal. Il faut pas enchaîner tout de suite. C'est à moi de donner le signal. Attendez mon signal pour lancer le rugissement, ok? Quand il cesse de jouer, continue avec ta note la plus aiguë. C'est à toi de briller. Joue très haut et tiens la note. Joue la plus haut. C'est ton moment. Tu vas les impressionner. Je les veux comme je les ai écrites, comme mes fans l'entendent. Je veux que ça sonne comme sur le disque.
On a compris qu'avec This Is It, Michael semble déterminé à offrir le meilleur des spectacles à ses fans. Comment se passent les répétitions de ce show, Isabelle ?
Les répétitions de This Is It se succèdent vraiment à un rythme effréné. Michael Jackson y participe souvent les après-midi, en général. Et comme on le voit d'ailleurs sur les images, il veut tout superviser, comme à son habitude, comme il l'a toujours fait sur toutes les tournées. Il déborde d'idées dans tous les domaines. Il veut vraiment participer, comme en studio d'ailleurs, à peu près à toutes les phases de création de son spectacle. Des castings jusqu'au décor, en passant par la gestion des harmonies vocales, de ses chœurs, aux chorégraphies, aux mises en scène. Il filme tout, en fait. Il surveille tout, de manière à pouvoir, quand il n'est pas là, la nuit, comme il dort très peu, pouvoir se repasser les bandes et savoir ce qui s'est passé dans le courant de la journée.
Il a dans son esprit cette quête du perfectionnisme, il est sur tous les fronts, peut-être même un peu trop, parce que vous l'avez dit, il dort très peu. Alors comment se sent-il à quelques semaines de la première représentation de son spectacle ?
Il n'est probablement pas vraiment prêt. Il est vraiment angoissé, il est épuisé. Il est encore abîmé psychologiquement et physiquement par les accusations et le procès de 2005, malgré le fait qu'il ait été complètement acquitté. Quand on voit les images, on a parfois l'impression qu'il tient debout presque miraculeusement. Lui qui dort à peine, tant l'adrénaline et le stress le rongent, il est vrai qu'il ressemble parfois à un automate qui connaît son rôle sur le bout des doigts, mais qui semble parfois n'être déjà plus que l'ombre de lui-même. Et rien va aller en s'arrangeant. Paranoïa ou pressentiment, il se méfie de tout et de tout le monde. Il s'inquiète et il semble même pressentir le pire, selon le témoignage de certaines personnes qui l'ont côtoyé dans ces dernières journées.
Les semaines passent et la pression se fait de plus en plus ressentir du côté de Michael. Le concert doit se tenir dans moins d'un mois maintenant. Nous sommes le 25 juin 2009. Il est un peu plus de midi lorsque les services d'urgence de Los Angeles reçoivent un appel.
Ici les services d'urgence, quel est le motif de votre appel ?
Oui, bonjour monsieur, nous avons besoin d'une ambulance le plus vite possible. On a un homme qui a besoin d'aide, il ne respire plus. Il ne respire pas, on essaie de le réanimer, mais il ne respire pas.
Ok, quel âge a-t-il ?
Il a 50 ans, monsieur.
50 ans, ok. Il est inconscient, il ne respire pas, c'est ça ?
Oui, c'est ça, il ne respire pas.
Et il est inconscient ?
Oui, il est inconscient.
Ok, d'accord. Il est allongé sur le sol ou est-il allongé ?
Il est sur le lit, monsieur, il est sur le lit.
Ok, allongez-le par terre.
Ok.
C'est ça, allongez-le sur le sol, nous allons vous aider pour la réanimation.
Il nous faut,
Oui, on est sur la route, je vais essayer de vous aider par téléphone en attendant. On est sur la route, hein. Il y avait quelqu'un avec lui ?
Oui, nous avons un médecin personnel ici avec nous.
Oh, il y a un médecin ?
Oui, mais il ne répond pas à la réanimation ou quoi que ce soit.
Oh, ok.
On tente de le réanimer, mais il ne répond pas, monsieur, s'il vous plaît.
Ok, on est sur la route, on est à moins de 2 km d'ici, on arrive très bientôt.
Merci, monsieur, merci.
N'hésitez pas à nous rappeler si vous avez besoin de quoi que ce
merci.
Soit.
Merci.
Un homme serait en pleine détresse respiratoire, et vous l'avez entendu, la personne au bout du fil est incapable de procéder correctement aux premiers soins à prodiguer à la victime. Les secours arrivent sur place et découvrent que leur patient n'est autre que Michael Jackson. Il est emmené d'urgence à l'hôpital. À 13h30, TMZ annonce la nouvelle. On apprend à cette heure-ci que l'état du chanteur est préoccupant. Durant près d'une heure, le personnel médical va tenter de le sauver. En vain. Il est précisément 14h26 quand l'hôpital décide de rendre public le décès de la star. Les chaînes d'infos du monde entier interrompent leur programme et passent en édition spéciale « Michael Jackson est mort ».
Tonight's breaking news. Multiple media outlets are now reporting that pop singer Michael Jackson has died.
It's a very, very sad news that Michael Jackson has died.
According to the LA Times, Michael Jackson has been pronounced dead.
We lost one of the world's most loved and greatest pop stars that we will probably ever know.
Michael Jackson.
No,
Michael
Jackson.
Died.
No. He died. Michael Jackson is dead.
Michael
no.
Jackson, Michael
no.
Jackson.
Are you
dead.
Being serious?
Michael Jackson's dead.
No.
No, 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 we're not taking that. Michael Jackson is not dead, you know.
Cette information provoque immédiatement une émotion indescriptible à l'échelle mondiale, comme si la Terre s'était arrêtée de tourner au même moment où le roi de la pop a rendu son dernier souffle. Je viens d'utiliser des mots très forts, Isabelle, mais ce n'est pas pour rien. Jamais auparavant on n'avait ressenti une telle émotion provoquée par la mort d'un artiste. Et pour ceux qui n'ont pas connu ce jour du 25 juin 2009 et les semaines qui ont suivi, pouvez-vous nous rappeler le sentiment qui régnait à l'annonce de la mort de Michael ?
La mort de Michael Jackson fait l'effet d'un tremblement de terre, d'un tsunami qui saisit au vol toute la planète. C'est vrai que tout le monde se souvient de ce qu'il faisait à cette minute précise où il a entendu l'annonce dans les médias. Alors, ce jour-là, toutes les chaînes de télé, de radio vont ne parler que de lui, diffuser ses musiques, ses vidéos, des documentaires, des interviews de ceux qui ont vécu d'ailleurs les répétitions avec lui. Ce jour-là et les jours et les semaines suivantes.
Partout dans le monde, le nom et la musique de Michael Jackson est célébré. En France, même Skyrock, la radio numéro 1 sur le rap, diffuse une chanson du roi de la pop toutes les heures pendant plusieurs semaines. Avec la mort, le roi de la pop est devenu le roi de la musique. Ce décès va aussi être marqué par un événement. Le 7 juillet 2009, une cérémonie va permettre au monde entier de rendre un dernier hommage à Michael.
La cérémonie d'hommage au Staples Center va être diffusée en direct et tout le monde va découvrir ses enfants, sans masque cette fois, entendre Paris pleurer son père. Tout le monde va entendre le révérend Al Sharpton ou encore la fille de Martin Luther King encenser Michael. Tout le monde va entendre la musique et les larmes des artistes qui vont venir lui rendre hommage. À ce moment-là, son image semble redorée. On semble être dans un triste moment de grâce.
Alors qu'il y a encore quelques mois, cet homme était assimilé à un personnage étrange, le voilà aujourd'hui propulsé au rang d'artiste intouchable. Oubliez toutes les affaires judiciaires et les rumeurs publiées dans les tabloïds, Michael Jackson est aujourd'hui un génie, un homme incompris, un Peter Pan victime d'injustice. Son décès provoque des retournements de situation inattendus, à l'image de Martine Bachir, qui revient sur les déclarations qu'il avait tenues quelques années auparavant. Souvenez-vous.
Évidemment, il apprécie la compagnie des enfants, qui sont ravis d'être là eux aussi. Le problème, c'est que je sais, comme tout le monde, qu'il y a 10 ans, des enfants étaient invités à dormir à Neverland, et que l'un d'entre eux, un adolescent de 14 ans, l'a accusé d'agression sexuelle. Une affaire qui a été réglée à coups de millions de dollars. Je croyais qu'il serait plus prudent à présent. Mais à mon grand étonnement, j'ai découvert qu'il y avait encore des enfants qui dormaient ici. Parfois dans sa maison ou dans sa chambre. Je vais devoir confronter Jackson face à ce que je considère être une véritable obsession pour les enfants. Il ne pourra pas y échapper. J'ai encore beaucoup de questions à lui poser concernant des aspects de sa vie où je trouve qu'il n'a pas été très honnête. Et notamment sur le fait que des enfants dorment à Neverland. Quand j'ai fait ce documentaire à l'époque, il y avait une petite partie qui contenait une controverse concernant ses relations avec les enfants. Mais la vérité, c'est qu'il n'a jamais été reconnu coupable d'aucun crime. Je n'ai jamais vu aucun fait répréhensible de sa part. Son mode de vie était peut-être loin d'être ordinaire, mais je ne crois pas qu'il était criminel pour autant. Et je pense que le monde a perdu aujourd'hui le plus grand artiste qui n'ait jamais existé.
Après l'émotion provoquée par cet événement tragique, rapidement, un business s'articule autour de la mort du roi de la pop. Avec à la clé, dans un premier temps, la sortie d'un documentaire montrant les répétitions de ce qu'aurait dû être le dernier show de Michael. Ce documentaire, Isabelle, c'est bien sûr This Is It qui dévoile les coulisses du show qu'aurait dû présenter Michael. Comment est-il finalement reçu par les fans de l'artiste ?
This Is It reçoit un accueil mitigé. Pour beaucoup, il ne montre pas tout, et c'est vrai. À l'émerveillement de certains qui découvrent le professionnalisme ou la créativité de l'artiste, va s'opposer le scepticisme des fans qui, eux, lisent entre les lignes et qui s'inquiètent a posteriori de voir un Michael Jackson fragilisé et potentiellement surexploité. Malgré tout, ce film va être un succès mondial et le documentaire va devenir le plus rentable de tous les temps.
Même la mort ne semble pas arrêter l'interprète de Thriller, bien au contraire. Malgré les mois qui passent, il reste sur le devant de la scène, notamment grâce aux nombreuses compilations qui sortent dans les bacs, mais aussi aux documentaires et aux émissions télé qui lui sont consacrées. Ce qui nous amène en 2010, un petit peu plus d'un an après la mort du roi de la pop, les personnes en charge de l'héritage de la star décident de sortir un album inédit, qui va, une fois de plus, susciter une vive controverse.
Michael. The brand new album from the greatest artist of all time, out now.
Cet album est le fruit de l'estate of Michael Jackson, un organisme qui a vu le jour à la mort de l'artiste. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots cette organisation, Isabelle ?
La succession de Michael Jackson est une entité juridique qui a été créé après son décès dans le but d'administrer ses biens et de superviser ses revenus posthumes. L'hommage va laisser place à un business lucratif, malgré, je crois qu'on peut le dire a posteriori, une certaine mauvaise qualité artistique, parfois même une pauvreté des productions posthumes de Jackson qui sont proposées et une gestion de ses inédits ou de l'héritage qu'il a laissé qui laisse franchement à discuter.
Pourquoi cette gestion des inédits et des albums posthumes de la star déçoit particulièrement les fans du roi de la pop ?
Les albums posthumes édités, à commencer par Michael en 2010, provoque soit un accueil mitigé, soit le scandale. Ce premier posthume, très inégal, parsemé de productions de bonne qualité, est vraiment vérolé par des supercheries sonores, des productions mal fagotées et des doublages vocaux trompeurs et factices. Nombre de fans vont se lever vent debout et appeler au boycott. Certains vont tenter d'interpeller les stats pour demander des comptes.
Cette histoire est à peine croyable. L'estate of Michael Jackson a fait appel à des imitateurs pour terminer des chansons de l'album. Mais cette mésaventure qui a révélé une supercherie n'empêche pas les héritiers de Michael de s'en mettre plein les poches. Encore aujourd'hui, le roi de la pop reste l'artiste mort le plus rentable de tous les temps. L'estate of Michael Jackson ne cesse de sortir de nouveaux produits d'une qualité variable, provoquant l'enthousiasme comme la déception des fans. Autant vous dire que l'annonce du nouvel album posthume censé signer le retour du roi de la pop en 2014 intrigue, ce nouveau projet est attendu au tournant par les fans. Isabelle, on peut le dire, 2014 marque le vrai grand retour de Michael avec son deuxième album posthume, Escape. Quelle est la stratégie de Sony cette fois-ci après le scandale de l'album Michael en 2010 ?
En 2014, Epic Records va donc choisir d'éditer 8 chansons inédites pour lesquels Michael Jackson avait cette fois fini d'enregistrer les parties vocales. Il n'aura donc pas besoin de rajouter d'autres voix plus ou moins ressemblantes dessus. Et donc, le 30 avril 2014, le premier single à paraître est annoncé. C'est le titre « Love Never Felt So Good » qui va d'ailleurs être un duo avec Justin Timberlake. Alors, l'intérêt de ce deuxième album posthume réside certainement dans le fait d'avoir mis côte à côte des versions originales, dont l'attribution est désormais indiscutable, et des productions réactualisées, faites par des producteurs tendance.
Comment cet album est-il reçu par les critiques et le public ? Est-ce que Sony a réussi à faire l'unanimité avec ce disque ?
Alors, les critiques américaines sont généralement favorables. Par exemple, Bernadette McNulty, dans le Daily Telegraph, fait l'éloge de l'album à l'époque en le disant immaculé, en estimant que la présence vocale de Jackson est vraiment au centre et a été soignée dans le mixage. On va aussi avoir des critiques un petit peu plus nuancées. Dans le Guardian, par exemple, on se dit que Xscape a finalement été pensé comme un album qui vise à mettre en valeur seulement une petite poignée de chansons qui, elles, méritent d'être entendues. Enfin, pour des critiques plus sévères, comme Nick Stevenson de Mixmag, l'album ressemble davantage à une collection de face B d'Off the Wall qu'à une suite d'Invincible. En tout cas, l'album, et notamment via ce fameux single avec Justin Timberlake et son clip Hommage, dont le message et les chorégraphies touchent les jeunes, tout cela va permettre de faire découvrir Michael Jackson à la nouvelle génération, à maintenir l'intérêt général, à faire débat aussi, bref, à laisser la star en vie dans la sphère publique, musicale et sociétale.
Il aura fallu attendre que cet artiste décède pour se rendre compte véritablement de son talent et de l'héritage qu'il a laissé derrière lui. Sa stature de légende n'a fait que grandir au fil du temps depuis 2009. La preuve, on ne compte plus les hommages, les spectacles et les expositions autour de Michael. Logiquement, l'année 2019 aurait dû être celle du roi de la pop. Les fans comptaient bien fêter comme il se doit ce 10e anniversaire célébrant la mort de leur idole, et on peut le dire, Michael a été au centre de l'attention, mais pas comme les fans auraient pu l'espérer. En 2019, le nom de Michael Jackson est à nouveau associé à une affaire des plus sordides, si bien que la fête attendue par les fans se transforme en censure planétaire. Comment expliquer un tel retournement de situation en seulement quelques mois ? La cause tient en deux mots, Living Neverland.
Hello Wade, today is your birthday, so congratulations. I love you.
J'avais 7 ans. Il nous a proposé de passer le week-end avec lui à Neverland.
Je n'ai pas su protéger mon fils.
Je veux clamer haut et fort la vérité. Il a commencé à me dire, s'ils apprenaient ce qu'on faisait, on irait en prison pour le restant de nos jours.
Michael Jackson, Living Neverland, jeudi à 21h sur M6.
C'est un programme qui va faire du bruit. Living Neverland est un documentaire qui va relancer une fois de plus les rumeurs d'actes pédophiles concernant Michael Jackson. Cette fois-ci, les téléspectateurs découvrent deux nouveaux témoignages, ceux de Wade Robson et James Shefchuk. Qui sont-ils ?
Wade Robson est un chorégraphe, un animateur de télévision australien qui est né en 82, qui est le créateur aussi et le présentateur de sa propre émission, diffusée sur MTV et qui était dédiée à la danse, le Wade Robson Project. Enfant, il a tourné dans trois clips de Michael Jackson, Black or White, Jam, Heal the World. Et à l'âge de 19 ans, il est déjà chorégraphe professionnel, producteur, superviseur de tournée et acteur. Bref, une trajectoire professionnelle qui est quand même tout à fait honorable et à laquelle finalement la promiscuité avec Michael Jackson n'est sans doute pas tout à fait étrangère. James Shefchuk, quant à lui, est un enfant star, un enfant acteur de Simi Valley en Californie, qui a décroché très tôt un rôle convoité dans une pub Pepsi aux côtés de Michael Jackson en 87. Il va se nouer d'amitié avec lui, il partagera d'ailleurs parfois la scène de la tournée de Bad, il y fera le moonwalk à côté de Michael Jackson. Lui aussi va défendre l'artiste en 1993 durant l'affaire Chandler, et ce pourtant malgré des soi-disant années de sévices encore en cours avec l'artiste. Il aurait gardé le silence, jusqu'à ce que finalement la plainte de Robson en 2014 lui inspire de se joindre à lui.
Isabelle, pouvez-vous nous dire pourquoi ce programme va faire tant parler ? Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce documentaire ? Et comment va-t-il relancer les débats souvent houleux autour de Michael ?
Alors le documentaire Leaving Neverland, produit par Dan Reed en 2019, consiste en 4 heures de témoignages, notamment par ces deux individus, des témoignages à charge contre Michael Jackson. Il va être diffusé aux États-Unis en janvier 2019 lors du festival du film de Sundance, le 3 mars 2019 sur HBO, en mars également au Royaume-Uni et en France, où il n'aura que 8,8% d'audience. Pour autant, cette diffusion va avoir des conséquences dramatiques dans l'esprit du public, en étant renforcée par les prises de position quasi immédiates de nombreux médias qui semblent prendre parti et se protéger en censurant en toute partialité Michael Jackson. Celui-ci est à nouveau immédiatement présenté comme coupable aux yeux du tribunal public, affamé de sensationnalisme et certain pour une part de pouvoir être conforté dans des doutes qu'il n'a jamais vraiment abandonnés.
Isabelle, vous parliez de la partialité des médias. En France, le documentaire a été diffusé sur M6 et a été le théâtre d'un débat plus ou moins équilibré et constructif sur le contenu du documentaire, mais ça ne va pas être le cas partout et notamment aux États-Unis. Oprah Winfrey, qui avait interviewé Michael en 1993, va cette fois-ci donner la parole aux différents protagonistes de ce documentaire. Dan Reed, le producteur, Wade Robson et James Shefchuk vont pouvoir s'exprimer librement sur le contenu de ce programme sans jamais que leur témoignage soit remis en question.
J'ai enregistré 217 émissions sur les abus sexuels. J'ai essayé de faire passer le message aux gens que l'abus sexuel n'était pas seulement un abus, mais aussi de la séduction sexuelle. Donc, après avoir vu Leaving Neverland la première fois, j'ai appelé Dan Reed et je lui ai dit « Dan, vous avez pu illustrer dans ces 4 heures ce que j'ai essayé d'expliquer en 217 émissions. Pour moi, ce moment transcende Michael Jackson, parce qu'il est beaucoup plus grand que n'importe qui. » Avec le recul, ça nous permet de voir cette corruption sociétale comme une sorte d'arnaque sur l'humanité.
Après ces révélations, les censures ne vont pas se faire attendre. Michael est retiré de la programmation musicale de plusieurs radios, aux États-Unis, au Canada et en France notamment. Les producteurs des Simpsons vont supprimer un épisode où Michael avait prêté sa voix. Drake, quant à lui, supprime une chanson de sa tournée où l'on entendait le roi de la pop et des statues datant de l'époque history sont enlevées aux Pays-Bas, en Angleterre et au Danemark. Mais les jours et les semaines passent et progressivement, des voix vont s'élever et remettre en cause le récit de Leaving Neverland.
À ce récit unilatéral et à charge, va s'opposer d'autres témoignages de jeunes qui avaient connu le chanteur quand ils étaient enfants ou adolescents. Des personnes comme Macaulay Culkin, Corey Feldman, Brett Barnes, qui nient catégoriquement tout contact sexuel avec Michael Jackson ou toute attitude ou comportement ou circonstance ambiguë ou discutable qu'ils auraient vécu ou à laquelle ils auraient assisté avec lui. Brandy Jackson affirme qu'elle a Elle avait à cette époque elle-même une relation d'abord amicale, puis plus intime avec le fameux Wade Robson, une relation qui a duré plus de 7 ans et qui se tenait durant la période concernée par les allégations d'abus sexuels. Elle remet donc catégoriquement le récit de Wade Robson, qu'elle qualifie de complètement opportuniste, en cause, et d'ailleurs l'ensemble du documentaire dans lequel elle n'est jamais mentionnée. Même le réalisateur va être contraint de reconnaître que certains éléments des témoignages ne tiennent pas debout, qu'il y a des erreurs chronologiques dans les récits, qu'il y a des incohérences face à des lieux qui sont évoqués et qui pourtant n'existaient pas à l'époque à Neverland.
Autant vous dire qu'il est très difficile de s'y retrouver dans tout ça, d'autant plus que c'est la troisième fois qu'une affaire comme celle-ci est portée devant les tribunaux à l'encontre de Michael Jackson. Alors cette nouvelle histoire est-elle crédible ? Et qu'en est-il aujourd'hui, maître Ushet Ran, avocate au barreau de Paris et qui nous avait aidé à comprendre l'affaire de 93, nous donne quelques éléments de réponse.
ce qui est intéressant finalement, c'est avant, voilà, c'est les débats pour voir s'il peut y avoir un fond de vérité pendant justement un débat préliminaire. Le juge a entendu vraiment toutes leurs versions, etc. Alors les versions qui ont changé, alors je crois que pour Webb Robson, ça a dû changer 4-5 fois. Hein. Et avec des grosses différences hein, sur les plaintes. Hein. C'est ça qui est pas mal. Le juge a déclaré « Aucun élément ne peut permettre de croire en la version de M. Robson et de M. Sefchuk. » Aucun élément. A priori, les cours d'appel ont confirmé. Hein, donc ils se sont fait envoyer sur les roses. Et je crois que la succession là, vient de gagner une petite bataille. Hein, puisqu'ils ont été condamnés, je crois, à rembourser. Je sais plus, c'est 70 000 ou 90 000 dollars en moins de frais d'avocat.
Tout ce bruit pour finalement pas grand-chose. Parce que vous l'avez compris, Michael Jackson est à ce jour officiellement innocent. Et le boycott autour de son nom n'aura pas duré très longtemps. Les médias sont passés rapidement à autre chose, laissant Living Neverland sur le bas-côté. Rien ni personne ne semble pouvoir lui faire de l'ombre au point de constater aujourd'hui que les dernières polémiques n'ont eu quasiment aucun effet sur l'héritage du roi de la pop. La preuve avec cette comédie musicale qui fait un carton aux États-Unis sur Michael Jackson. Justement Isabelle, qu'est-ce qu'on retient de Michael Jackson aujourd'hui et comment on peut mesurer sa popularité ?
Michael Jackson est un artiste intemporel. Il est une source d'inspiration pour beaucoup de monde. BTS, Drake, Beyoncé, Justin Timberlake, Bruno Mars, The Weeknd, Kobe Bryant, Zendaya, et même en France, Christine and the Queen, Julien Doré, Black M et tant d'autres ne se cachent pas d'avoir pour certains trouvé leur voix en le voyant sur scène ou de s'inspirer de sa créativité dans leur manière de concevoir la musique. Plusieurs projets autour de Michael Jackson pourraient voir le jour. Cette année, il y aura la sortie de la réédition de Thriller pour les 40 ans de l'album, dont on espère une production posthume de qualité cette fois. Un biopic est également évoqué. Bref, Michael Jackson est encore bien là. Il transparaît, il transpire dans nombre de références, de citations, de clichés, que ce soit dans la musique, dans les films, dans les publicités, dans les débats même culturels. Michael Jackson est là.
Il est toujours là malgré les années qui passent, plus de 10 ans après sa mort, dépassant la popularité de ses idoles Fred Astaire et James Brown en tête. Quelle est sa place dans le milieu artistique aujourd'hui ?
Sa place aujourd'hui dans le milieu artistique, eh bien, c'est une place, comment dire, académique, c'est une place lumineuse. Michael Jackson est une référence, une source d'inspiration, qui ne s'inscrit pas que dans le passé, qui n'est pas seulement quelqu'un qu'on regarde dans le rétroviseur, mais qui continue finalement d'être devant nous une lumière, un idéal à atteindre, encore pas vraiment égalé, loin de là. Michael Jackson a placé la barre suffisamment haut pour que l'on continue à lui courir après encore aujourd'hui.
Justement, comment on peut expliquer ce phénomène ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Michael est un artiste, une légende qui traverse les générations ?
Les éléments qui font de Michael Jackson une légende à travers la génération, parmi ces éléments, je dirais qu'il y a l'avant-gardisme qui fait que sa musique n'a pas vieilli. Alors, ce phénomène est aussi alimenté par cette espèce de nostalgie sur laquelle on surfe à l'heure actuelle, les années 70, 80, 90, qui font que finalement, nombre de productions actuelles sonnent comme il y a 30 ou 40 ans. Et on a un petit peu effacé les ruptures franches qu'on pouvait avoir justement à cette époque-là entre différentes étiquettes. Mais Michael Jackson, en plus, alimente depuis sa mort cette nostalgie. Donc finalement, à part pour certains courants très typés comme le rap américain, la plupart des jeunes écoutent aussi, n'écoutent pas que, mais écoutent aussi Michael Jackson et ne le trouvent pas du tout passéiste. À cela, il faut ajouter cette fraîcheur, cette originalité qui se dégage de sa production, de sa musique, la qualité du son aussi. la sincérité et l'authenticité qui transcendent et qui continuent de toucher finalement les jeunes comme les plus anciens, ceux qui l'ont connu comme ceux qui sont nés après son dernier opus ou après sa mort. Finalement, je crois que tout le monde ressent une chose, c'est que Michael Jackson s'est incarné de son vivant dans son art et qu'aujourd'hui il continue de faire corps avec lui au-delà du temps et de l'espace. Je pense que cette permanence, cette présence de Michael Jackson encore aujourd'hui parmi nous s'inscrit un peu dans une dimension mystique, que l'on soit religieux ou pas. Il y a une dimension mystique, une dimension iconique, quelque chose qui nous dépasse tous dans cet artiste. Et c'est en cela que Michael Jackson est et demeurera fascinant.
Merci Isabelle, tout est dit. Avant de conclure cet épisode et cette saison 1 comme il se doit les amis, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont travaillé de près ou de loin au succès plus ou moins relatif de ce podcast, à commencer par les voix que vous avez entendues dans les extraits. Par ordre d'apparition, je voudrais remercier Samuel Aguter, Gladys Chiex, Alexis Petro, Valentin Flamand, Nicolas Goussin, Morgane Juvin, Pierre Godin, Mathieu Mendes, Aurélien Graveline, Pierre Ertou, Stanislas Gillet, Julie Rémy, Ornella Dampron, Elisa Sabourin, Pierre Macadré, Mathilde Maurice, Benjamin Fenêtre, Christophe Ziri et Naël Cetali. Une mention spéciale tout de même à trois personnes, à mon petit frère Maël qui a prêté sa voix à Tito dans l'épisode 1, à mon papa qui a prêté sa voix à Bruce Swedien dans l'épisode 4 et à Mathieu Sinson qui a interprété Michael tout au long de cette première saison. Merci également au site d'MJ France et à la page Facebook Michael Jackson France pour les partages et le soutien. Merci à Souil Giroux et à Maître Ouchetran pour leur participation. Et merci beaucoup Isabelle de m'avoir accompagné dans cette aventure en prenant à cœur votre rôle de spécialiste. Vous le savez, je n'aurais pas pu faire cette série sans vous, donc merci infiniment. Isabelle Petitjean, qui est l'auteur de plusieurs ouvrages sur Michael Jackson, que je vous conseille évidemment si vous voulez découvrir cet artiste autrement. Et que serait cette première saison sans vous, les amis? Vous, derrière vos écrans, qui avez écouté chaque épisode du podcast et vous avez été de plus en plus nombreux à suivre cette série, sans vous, vous vous en doutez, ça n'aurait pas été pareil. Je vous kiffe, je vous aime. Merci infiniment pour m'avoir suivi dans cette aventure. Si vous voulez continuer d'ailleurs à faire grandir ce podcast, n'hésitez pas à partager cette histoire autour de vous et à noter ce podcast sur les plateformes de streaming. On ne sait jamais si ça vous a vraiment plu. Il y aura peut-être une saison 2. C'est sur ces mots que nous allons conclure cette aventure consacrée à Michael Jackson. Son histoire avait pourtant commencé de la manière la plus banale qui soit. Souvenez-vous, un petit garçon afro-américain né à la fin des années 50 aux États-Unis, fan de musique et notamment de James Brown ou de Charlie Chaplin, il va très vite, grâce à son talent inné pour le chant et la danse et à son travail acharné, devenir la plus grosse star de la musique dans le monde. Perfectionniste, il sera l'auteur de l'album le plus vendu de tous les temps, révolutionnera l'industrie musicale grâce à ses clips vidéo, marquera la pop culture de son charisme, de son moonwalk et de ses looks plus iconiques les uns que les autres, et finira par traverser des générations entières, même encore aujourd'hui. L'histoire que je viens de vous raconter n'est pas le fruit du hasard, non. Le roi de la pop est différent et unique en son genre, ce qui lui a permis de marquer l'histoire de son emprunt. En d'autres mots, c'était écrit et rien ne pouvait empêcher Michael Jackson d'avoir un destin de légende.
Traveling the world has been a great education for me. And if there is one insight I've had, it is this. Wherever you go, in every country, on every continent, people yearn and hunger for only one thing, to love and be loved. Love transcends, Love transcends international boundaries and it heals the wounds of hatred, racial prejudice, bigotry, and ignorance. It is the ultimate truth at the heart of all creation. I would also like to thank God and my mother and father, Catherine and Joseph Jackson. Thank you once again. I love you all.